Annoncez votre événement.
Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire.
Très bonne fin de matinée avec Fadjet. Il est 11h.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va ouvrir l'émission avec la très tonique ouverture de Roussian et Ludmila de Mikhaïl Glinka. Alors, Glinka, bien évidemment, c'est un russe, hein, Mikhaïl Glinka. Il est né en 1804, mort en 1857. Et on peut dire que c'est le premier grand compositeur russe, en tout cas né sur le sol russe, puisque avant Glinka, la musique en Russie est souvent animée par des musiciens venus d'Europe occidentale. Beaucoup d'Italiens d'ailleurs, et même un Irlandais, John Field, remarquable pianiste, compositeur de concertos pour piano, et qui fut le maître, l'un des maîtres de Glinka. Alors Glinka, il est connu pour ses opéras, notamment Une vie pour le tsar, et surtout Roussian et Ludmila. Il a parcouru plus ou moins son pays pour y entendre les chants traditionnels, etc. Et il a en quelque sorte inséré quelques couleurs locales dans sa propre musique, rappelant donc la musique des terroirs de la Russie. Voici l'ouverture de Roussian et Ludmila, enregistrement très célèbre de 1966, avec l'Orchestre symphonique de Londres que dirige Sir Georg Scholti.
Thank you.
Qui met en forme, hein, dès le matin, c'est l'ouverture très tonique, comme je disais, de Roussian et Ludmilla de Mikhail Glinka, l'orchestre symphonique de Londres, magnifiquement dirigé par Sir Georg Scholti. Et si vous n'avez pas encore tous vos cadeaux pour Noël et que vous avez des amis ou un parent mélomane à qui vous avez envie de faire plaisir, eh bien voici une idée de cadeau, un disque Schubert magnifique qui vient de paraître chez Solo Musica, 6 moments musicaux Deutsch 780, les 4 impromptus Deutsch 899, sans oublier la charmante mélodie hongroise Deutsch 817, tout cela interprété par Jean-Nicolas Diatkine, qui nous avait déjà impressionné par son talent dans Chopin, dans Beethoven, et qui donc aborde Schubert. Magnifique album. Je vous en propose tout de suite un extrait avec l'un des moments musicaux, le 5e, joué donc par Jean-Nicolas Diatkine. Le 5e moment musical de Schubert, interprété par Jean-Nicolas Diatkine, un disque Solo Musica qui vient de paraître très intéressant. Et on va continuer avec une œuvre de circonstance, puisque nous sommes à quelques jours de Noël, voici la Symphonie des Jouets. Alors de qui ? Bah oui, de qui ? Parce que elle a été attribuée longtemps par erreur à Haydn, et puis ensuite on a estimé qu'elle était de Léopold Mozart, le père de Wolfgang, et puis ensuite on nous a dit que finalement cette Symphonie des Jouets serait l'œuvre d'un moine bénédictin, Edmund Angerer. Et bon, voilà, en fait, on ne sait pas trop. Peut-être que Edmund Angerer a recopié l'œuvre de Léopold Mozart, peut-être qu'elle est bien de ce moine. En tout cas, c'est une œuvre charmante qu'on entendait autrefois assez souvent, maintenant peut-être un peu moins. Moi, j'ai voulu en passer un petit extrait, puisque donc c'est une œuvre, comme je le disais, qui évidemment évoque Noël quelque part, Symphonie des Jouets. Hein. Allez, voici un extrait de cette Symphonie des Jouets, attribuée, on va dire, à Léopold Mozart, interprétée par l'orchestre de chambre de Munich, que dirige Hans Stadelmayr. Un extrait de la Symphonie des Jouets attribuée à Léopold Mozart, ou peut-être à un moine bénédictin, Edmund Angerer, interprété par l'orchestre de chambre de Munich, que dirigeait Hans Stadelmayr. Et je vous rappelle que vous écoutez Discothèque Classique, votre rendez-vous classique le samedi et le dimanche sur Radio Fadjet, de 11h à midi. Et voici maintenant Kurt Weill. Alors Kurt Weill, c'est un compositeur qui a travaillé avec Bertolt Brecht. Il est né en 1900, mort en 1950. Et c'est une personnalité évidemment éminente du monde musical de la première moitié du XXe siècle. Il était allemand, juif, sympathisant communiste. Il a évidemment été obligé de quitter l'Allemagne dès 1933. Il s'est réfugié en France. Et là, il a fait jouer certaines de ses œuvres qui ont été plus ou moins bien accueillies. On sait que lorsqu'un extrait de son opéra Le Lac d'Argent, qui fut donné d'ailleurs il y a quelques saisons à Nancy, eh bien, a été donné à Paris, eh bien, dans la salle, il y avait Florent Schmitt qui a carrément hurlé « Vive Hitler !» C'était vraiment une époque très très dure. Et évidemment, Lucien Rebattet, qui plus tard sera un collabo de notoire et de premier ordre, eh bien, dira dans l'Action française que c'était vraiment une musique dégénérée, etc. Le même langage, la même sémantique que les nazis. Et puis ensuite, eh bien, lorsque quelques années plus tard, les Allemands sont arrivés en France, même un peu avant, donc Kurt Weill part aux États-Unis et là, il va travailler à Broadway, notamment avec celle qui fut son épouse, dont il divorça, et puis ensuite ils se remirent ensemble, c'est Lotte Lenya. Et voilà, et donc une partie de sa famille aussi était partie s'installer en Palestine, à Kurt Weill, et il est mort brutalement en 1950. Voici un extrait d'une comédie musicale de Kurt Weill, qui s'appelle Touch of Venus, comédie donc composée pour Broadway. On va écouter la chanson I am a stranger Hear Myself, je suis un étranger pour moi-même, chanté par Anne-Sophie Von Auteur, l'Orchestre symphonique de la Radio de Hambourg et dirigé par John Elliott Gardiner.
Tell me, is love still a popular suggestion or merely an obsolete one? Forgive me for asking this simple question. With his heart, I am a stranger myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him? What does it bore him? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself. I dream of a day of a gay. My face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask, but no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to use. But if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell me, tell a stranger my curiosity goaded. Is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you wasted two romances so fleshly with one. Have you replaced it? What is your latest foible? Is it running more exquisite? Is skiing more enjoyable? Or haven't it been? And I can't believe that love has lost its glamour. That passion is really passive. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly
I'm Stranger, Hear Myself, une chanson de Kurt Weill, chantée par Anne-Sophie Von Auteur, mezzo-soprano, remarquable, hein, comme toujours, et puis l'Orchestre symphonique de la Radio de Hambourg, direction John Elliott Gardiner. Un peu de Richard Strauss maintenant avec son concerto pour hautbois et petit orchestre, une œuvre de 1940. 45, qui a une histoire un peu singulière, puisque c'est le oboïste John Delancey, américain, qui était engagé dans les GIs et qui faisait partie des troupes d'occupation de l'Allemagne, qui a rendu visite à Richard Strauss donc en 1945 pour lui solliciter un concerto. Il lui a dit « Moi, j'aimerais bien que vous composiez un concerto pour hautbois, parce que je suis oboïste moi-même, et vraiment, vous n'avez jamais écrit pour cet instrument en soliste, et voilà, il se serait temps peut-être de vous y mettre. » Et Richard Strauss a vraiment accueilli favorablement cette demande, et il a composé ce concerto, évidemment, qui est aujourd'hui encensé par tous les hoboïstes. On va en écouter le final, et quelques mesures du final, interprétées au hautbois, par Gregor Zubicki, et puis l'orchestre de chambre d'Écosse est dirigé par Jukka-Pekka Sarastre. Vraiment un petit bijou que ce concerto pour hautbois et petit orchestre de Richard Strauss avec le hautbois de Gregor Zubicki. L'orchestre de chambre d'Écosse était dirigé par Jukka-Pekka Sarastre. Un peu de Georg Philipp Telemann maintenant. Alors vous savez, dans cette émission, je ne sais pas si vous nous découvrez ou pas, mais on passe un peu de tout. C'est-à-dire qu'on essaye de passer du baroque, du romantique, de la musique du XXe siècle, de la musique sacrée, de chambre, de l'opéra, enfin un peu tout quoi. Et voilà, donc un peu de musique baroque maintenant avec Telemann, 1681-1767. L'un des compositeurs les plus importants de son vivant. Hein. Vous savez que le conseil municipal de Leipzig avait souhaité avoir Telemann comme cantor, et puis ils se sont abattus sur un candidat un peu moins prestigieux à l'époque, qui s'appelait Jean-Sébastien Bach, bon quand même. Hein. Mais Telemann, il a vraiment touché à tout, il était aussi bien sur l'opéra que sur la musique sacrée. D'ailleurs, il avait beaucoup de fonctions à Hambourg, où il occupait d'ailleurs toutes les fonctions musicales, qu'il s'agisse du répertoire sacré ou profane. et lui-même ne savait pas combien il avait composé d'œuvres, tellement il a été prolifique, notre Telemann. Alors, il y a quand même des œuvres qui sont souvent jouées, plus souvent jouées que les autres. Par exemple, son concerto en la majeure, Les Grenouilles, parce que les instruments imitent un peu les croissements des grenouilles dans ce concerto. Et on va écouter une version récente de cette œuvre que j'aime beaucoup, signée par la violoniste Isabelle Faust et l'Académie für Alte Musik de Berlin, dirigée par Bernard Forck. Voici un extrait de ce concerto Les Grenouilles, joué donc par ses musiciens.
Thank you.
Discothèque classique, votre rendez-vous classique sur Fadjet les samedis et dimanches de 11h à midi. C'était un extrait du concerto Les Grenouilles, concerto en la majeure de Georg Philipp Telemann, avec Isabelle Faust en soliste et l'Académie für Alte Musik Berlin, dirigée par Bernhard Forck. Et bon, voilà, un concerto parmi les 125 qu'a laissé Telemann. Et c'était à l'époque un genre nouveau, puisque ce sont les Italiens, évidemment, qui ont inventé le concerto, qu'il soit grosso ou avec soliste. On revient au répertoire russe, parce que tout à l'heure, on a écouté un peu de la musique de Glinka. Bah, voici maintenant Modeste Moussorgski, 1839-1881, qui est mort d'une crise d'éthylisme, hein, parce qu'il était vraiment alcoolique au dernier degré. Il était hospitalisé. Il y a un infirmier qui a laissé par mégarde une bouteille d'alcool à 90 à proximité de Moussorgski, qui l'a avalé d'un coup. Et il est mort. Donc Moussorgski, ben justement, en raison de son alcoolisme grave, a parfois été plus ou moins bien considéré par certains de ses collègues, enfin considéré dans le sens où il a fallu, certains ont pensé qu'il fallait revoir son œuvre, certaines de ses partitions, comme Rimsky-Korsakov, qui a revu sa Nuit sur le Mont Chauve, qui en a fait tout autre chose d'ailleurs, et les deux versions, celle originale, de Moussorgski et celle de Rimsky sont tout aussi intéressantes, à mon sens. Et puis Moussorgski, il est aussi l'auteur de différents opéras, par exemple Boris Godounov. Ah oui, Boris Godounov, c'était important. Opéra composé en 1869-70, succinctement, d'après Pouchkine, et revu quelques années plus tard dans une grande fresque, et inspiré quand même là encore par des éléments des musiques populaires russes. On va en écouter un extrait, la fameuse scène du couronnement de donc Boris Godounov. Le chœur et orchestre du Kirov sont dirigés par Valérie Gargiev.
Thank you.
Ouh, ça décoiffe, hein. C'était donc la scène du couronnement de Boris Godounov de Modeste Moussorski, interprétée par le chœur et orchestre du Kirov, dirigé par Valérie Gergiev. La musique russe, on va pas faire l'impasse, hein, parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui avec ce pays, parce que ça serait vraiment, justement, servir les autocrates que de se priver des génies de ce pays, notamment, bien sûr, Moussorski, mais Tchaïkovski, Prokofiev et tous les autres. Magnifique enregistrement, en tout cas. On continue avec des contrées plus paisibles maintenant. Les Lucien Wurmster, 1877-1967. Il n'est pas très connu. Il y a un disque qui vient de paraître, enfin, qui est paru l'an dernier, chez Hortus. Et qui nous propose un programme de pièces pour piano de ce compositeur, Lucien Wurmster. C'est sous-titré Le dernier impressionniste, ce qui peut surprendre parce que finalement, eh bien, Lucien Wurmster, il a vécu, n'a pas vécu à l'époque des impressionnistes. Il appartient à la génération qui succède aux impressionnistes. Mais peut-être qu'effectivement, l'impressionnisme musical est décalé par rapport à l'impressionnisme pictural. On peut le penser. En tout cas, c'est un compositeur qui est resté fidèle toute sa vie à une veine debussiste, en quelque sorte, bien qu'il ne faut pas le prendre pour un sous-Debussy. Hein. Il écrit des choses remarquables et qui sont vraiment très, très personnelles, mais il est quand même dans la veine de l'impressionnisme français, c'est vrai. Allez, on va écouter une pièce de ce compositeur qui fut aussi un enseignant très recherché et puis un concertiste. Une pièce destinée justement au récital et au concours, la première de ces pièces étant jouée donc par le pianiste Nicolas Giosmin. C'est paru, un disque paru chez Hortus.
Thank you.
Alors, ce qui caractérise évidemment ce que l'on appelle les impressionnismes en musique, eh bien, c'est le côté liquide de leur musique. Hein. Évidemment, c'est très fréquent chez Debussy, Ravel. Et là, c'était une pièce de ce compositeur assez méconnu, il faut le dire, Lucien Wurmster, et une étude donc de concert, jouée magnifiquement par Nicolas Jossemin. C'est un disque Hortus, et alors à l'intérieur, il y a une petite surprise, c'est qu'on trouve une caricature de Wurmster signée Hergé. Incroyable, hein. Allez, on continue avec Schubert. On l'a écouté tout à l'heure dans sa musique pour piano. Voici maintenant un Lieder, Anne Sylvia. Oh, c'est l'un des plus célèbres d'après Shakespeare et arrangé évidemment par un poète, Bornfeld, qui a repris un texte de Shakespeare et qui l'a traduit en allemand. Et bon, le lied, évidemment, c'est un élément essentiel chez Schubert. Hein. Il en a composé plusieurs centaines. Et quand il composait des lieds, il avait l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Il l'a écrit d'ailleurs dans une lettre, « J'ai rien fait ces derniers mois, quelques dizaines de lieds ». Évidemment, aujourd'hui, eh bien, c'est considéré comme les chefs-d'œuvre du genre. Hein. Mais à l'époque, eh bien, c'est vrai que Schubert rêvait de briller à l'opéra, parce que c'est ce qui faisait qu'un compositeur était connu, reconnu, et en même temps, bon, ça assurait une certaine aisance matérielle, il faut le dire. Et il était peut-être un peu jaloux de Rossini, des succès de viennois de Rossini. En tout cas, bon, il a essayé aussi dans ce genre, ça a peut-être un peu moins pris que dans d'autres genres, on joue moins les opéras de Schubert, qu'on écoute ses lieders, ses symphonies, ou évidemment sa musique pour piano ou sa musique de chambre. Mais en tout cas, bon, il faut quand même les connaître, ces opéras de Schubert. J'en passerai quand même un extrait bientôt. Allez, on écoute un lied de Schubert, Anne Sylvia, Deutsch 891, avec la voix d'Anne-Sophie von Otter, mezzo-soprano. Elle est accompagnée au piano par Benk Forsberg. Sylvia, lied de Franz Schubert, chanté par Anne-Sophie von Otter et accompagné au piano par Benk Forsberg. On continue avec un peu de Khatchaturian. Et oui, Aram Khatchaturian, le grand compositeur arménien, de l'ère soviétique, puisque l'Arménie faisait partie de l'Union soviétique au moment, durant la vie de Khatchaturian. Et on va écouter la pièce la plus célèbre de ce compositeur, c'est sa danse du sabre, évidemment. Danse du sabre que l'on entend souvent dans la publicité, à la télévision, au cinéma. Allez, on l'écoute interprété par l'orchestre du Kirov, dirigé par Valéry Gergiev. La danse du sabre tirée de Gaïanais, du ballet Gaïanais de Khatchaturian, et c'était interprété par l'orchestre du Kirov, direction Valéry Gergiev. On va terminer l'émission avec un peu de Beethoven, la conclusion de l'ouverture d'Egmont, composée en 1809-1810, une musique de scène pour accompagner un drame de Goethe, et évidemment une œuvre qui évoque l'oppresseur, l'oppression. Il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, l'Autriche était occupée par les troupes napoléoniennes, et Beethoven n'avait pas beaucoup d'estime pour l'empereur Napoléon, il faut le dire, et donc une œuvre qui en quelque sorte est un chant de louange à la liberté. On en écoute un extrait avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin que dirige Herbert von Karajan. Thank you. symphonie de la victoire qui conclut l'ouverture d'Egmont de Beethoven, l'orchestre philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. Voilà, bah c'est terminé pour ce week-end. Mais on se retrouve la semaine prochaine, samedi et dimanche, vous le savez, de 11h à midi sur 94.2 Radio Fadjet pour de nouvelles aventures musicales. Bon dimanche à toutes et à tous et bien sûr, bonne semaine, à très très bientôt j'espère.
Destination série fête ses 24 ans. Quelle série culte va servir de fil conducteur tout au long de la saison?
K2000
Mickaël, j'ai du mal à comprendre.
Eh bien, tu n'es pas le seul.
Mauvaise réponse. La série mettait en avant les activités de la CAT de Los Angeles.
Stargate SG1
Toujours pas, et pourquoi pas Dallas? Le personnage principal se prénommait Jack Bauer.
Les feux de l'amour!
Promettez-moi, Jack, que vous serez là pour protéger ma famille.
On y est presque, mais c'est raté. Si vous voulez éviter ce genre de naufrage, ne ratez pas les nouveaux épisodes de Destination Série.
Destination Série, saison 24, tous les vendredis, dès 18h, sur Fadjet.
Avec vos rubriques habituelles.
Le 7 Actu,
secrètement vôtre.